Chapitre 42. Avant la première flèche. Regarder de l'intérieur le toit d'une tente devait être l'occupation la plus ennuyeuse du monde. Pourtant, étendu en bras de chemise, le dos bien calé par les coussins à pompons écarlates que Melindra avait achetés, Matt étudiait la toile beige. Ou plutôt, il regardait à travers, au-delà pour être plus précis. Un bras plié sous la tête, il faisait tourner de l'autre main le délicieux vin du sud du Keirien contenu dans un joli gobelet en argent martelé. Un minuscule tonneau de ce cru lui avait coûté l'équivalent du prix de 2 chevaux. En réalité, du prix qu'aurait dû valoir 2 chevaux, si le monde n'avait pas été sans dessus-dessous. Mais bon, pour un vin de cette qualité, c'était un investissement négligeable. De temps en temps, une goutte ou deux s'écrasait sur sa main, mais il ne s'en souciait pas et ne portait jamais le gobelet à ses lèvres. Selon lui, la situation avait largement dépassé le stade où on eût pu la qualifier de grave. Grave, c'était être coincé dans le désert des Aiel sans avoir la moindre idée de comment en partir, ou subir une attaque de suppôts des ténèbres jaillis d'on ne savait où, ou être réveillé la nuit par un assaut de Trolloc, le Myrdral qui les commandait vous pétrifiant sur place avec la force hypnotique de son regard sans yeux. Les mésaventures de ce genre vous tombaient dessus à l'improviste, et en général, elles étaient finies avant qu'on ait eu le temps de réfléchir. On ne courait pas après, bien sûr. Mais quand on parvenait à y survivre, on se faisait assez aisément une raison. Dans le cas présent, Matt savait depuis des jours vers où ses compagnons et lui se dirigeaient, et pourquoi faire. Rien d'improvisé là-dedans. En conséquence, des jours entiers pour y réfléchir.
« Je ne suis pas un fichu héros, » pensa Matt.
« Et même pas un fichu soldat. »
Il repoussa rageusement un souvenir où il arpentait les remparts d'une forteresse, en ordonnant à ses derniers hommes d'aller défendre la muraille, à l'endroit où les Trollocs venaient de placer une multitude de nouvelles échelles de siège.
« Ce n'est pas un souvenir à moi, et que la lumière calcine son véritable propriétaire. Je suis... »
C'était là que le bât blessait. Matt ignorait qui il était vraiment. Mais dans tous les cas, sa véritable identité impliquait de flamber au dé dans des tavernes et de danser avec de jolies filles. Ça, il en aurait mis sa tête à couper. Avoir un bon cheval et le choix entre toutes les routes du monde, voilà ce qu'était sa vie. Pas attendre dans son jus que quelqu'un le crible de flèches ou tente de lui enfoncer dans la poitrine une lance ou une épée. S'il déviait de sa voie, ça ferait de lui un crétin. Et il n'y était pas prêt, que ce fût pour Rand, pour Moiraine, pour quiconque d'autre. Quand il se redressa, le médaillon d'argent en forme de tête de renard accroché à une lanière de cuir sortit du col ouvert de sa chemise. Après l'avoir remis en place, il but une longue gorgée de vin. Le bijou le mettait à l'abri de Moiraine et de toutes les Aes Sedai, tant qu'elle ne parvenait pas à le lui enlever. Ce que l'une ou l'autre tenterait tôt ou tard, ça ne faisait pas un pli. C'était bien beau, mais à part son intelligence, rien ne le protégeait des fous furieux qui rêvaient de le tuer en même temps que des milliers d'autres idiots. Dans le même ordre d'idées, rien ne le protégeait non plus de Rand ou de son fichu destin de taverne. Être le point focal autour duquel se tissait la trame. S'il était avisé, un homme pouvait en tirer profit, non? En un sens, Rand l'avait fait. Quant à lui, il n'avait jamais rien senti se tisser autour de lui, à part sa chance insolente au jeu. Bien entendu, il n'aurait pas craché sur les bonnes choses dont les taverennes bénéficiaient dans les récits. La fortune et la gloire leur tombant du ciel, les ennemis résolus à les tuer devenant soudain leurs partisans, et les femmes aux yeux et au cœur de glace décidant tout à coup de fondre. En même temps, Matt ne se plaignait pas de son sort, bien au contraire. Et il n'aurait sûrement pas voulu du destin de Rand. Pour entrer dans cette partie-là, le prix était bien trop élevé à son goût. Mais il semblait accablé de tous les inconvénients liés au statut de taverne, sans vraiment profiter des avantages.
« Il est temps de filer »
lança-t-il à la tente déserte avant de boire une autre gorgée.
« L'heure est venue de sauter sur Pépin et de chevaucher à bride abattue. Jusqu'à Kemlin, peut-être. »
Une ville plutôt agréable, tant qu'il éviterait le palais royal.
« Ou jusqu'à Lugard. »
Sur cette cité-là, il avait entendu des rumeurs prometteuses. Un endroit idéal pour un type comme lui.
« Oui, il est temps de laisser Rand derrière moi. Une armée d'Aiel et d'innombrables promises s'occupe de lui désormais. Il n'y a plus besoin de moi. »
Ce n'était pas totalement vrai. D'une étrange façon, il avait un lien avec le succès ou l'échec de Rand lors de l'ultime bataille. Perrine aussi, d'ailleurs. 3 taverennes au destin entrelacé. Bien entendu, l'histoire ne retiendrait que le nom de Rand. Et il y avait peu de chances que le sien ou celui de Perrine figure simplement dans les récits. Encore qu'il y avait le corps de Valère.
Justement, il ne voulait pas y penser, et il n'y penserait pas avant d'y être obligé. Mais il devait y avoir un moyen de se tirer également de ce pétrin-là. Quoi qu'il en soit, le corps était un problème qu'il valait mieux remettre à un autre jour. Très lointain de préférence. Avec un peu de chance, tous ses comptes à rendre l'attendaient dans un futur pas du tout immédiat. Mais pour ça, il fallait peut-être encore avoir plus de veines qu'il en avait, et ça n'était pas peu dire. Le plus important, à cet instant précis, c'était qu'il venait de dire et de penser une multitude de choses sur la nécessité de s'en aller, et sans éprouver le moindre picotement. Par le passé, il avait longtemps été incapable de simplement évoquer l'idée de déserter. Et dès qu'il s'éloignait trop de Rand, un fil invisible le ramenait comme s'il était un poisson au bout d'une ligne. Plus tard, il avait recouvré l'aptitude d'exprimer sa volonté de mettre les bouts, mais le moindre petit événement lui faisait oublier son intention, ou la remettre tellement à plus tard que ça revenait au même. Même à Ruidéan, lorsqu'il avait dit à Rand qu'il s'en allait, il avait été sûr que quelque chose se mettrait en travers de son chemin. Et ça n'avait pas raté. S'il était enfin sorti du désert, il suivait toujours Rand comme son ombre. Mais là, rien n'allait le détourner de son objectif. Il le sentait.
« Enfin, je ne l'abandonne pas. S'il est incapable de prendre soin de lui, c'est qu'il n'y arrivera jamais. Et moi, je ne suis pas sa fichue nourrice. »
Après avoir vidé son vin, Matt enfila sa veste verte, rangea tous ses couteaux dans leur poche secrète, dissimula la cicatrice qu'il portait au cou sous un foulard noir, prit son chapeau et sortit. Après la relative fraîcheur de la tente, la chaleur le fit suffoquer. Quel que fût le rythme des saisons dans ce pays, l'été y durait bien trop longtemps à son goût. Dans le désert, il rêvait de l'automne qui l'attendrait dès qu'il en serait sorti. Ne plus crever de chaud, enfin. Mauvaise pioche pour le moment. Au moins, son chapeau à large bord le protégeait du soleil. Cette forêt du Cairien, avec ses collines, avait quelque chose de minable. Plus de clairières que d'arbres, et quels arbres, presque tous jaunis et racornis par la sécheresse. Rien à voir avec le bois de l'ouest chez lui. Il y avait des tentes d'aïeul partout. Très basses, elles passaient aisément, de loin, pour un tas de feuilles mortes ou un tertre sans végétation, sauf quand les parois latérales étaient relevées. Et même ainsi, elles restaient difficiles à repérer. Vaquant à leurs occupations, les guerriers ne lui accordèrent aucune attention. En traversant le campement, Matt dut grimper sur une crête d'où il aperçut les chariots de Cadéré rangés en cercle. Les conducteurs dormaient à l'ombre de leurs véhicules, tandis que le colporteur, comme d'habitude, n'était nulle part en vue. Ces derniers temps, il se cantonnait dans sa roulotte, en sortant uniquement lorsque Moiraine venait inspecter le chargement. Les aïels qui entouraient les chariots, armés jusqu'aux dents, faisaient de louables efforts pour ressembler à des sentinelles. En fait, c'étaient des gardes. Car Moiraine redoutait sûrement que Cadéré, ou certains de ses hommes, tentent de s'éclipser avec une partie des trésors rapportés de Ruidéan. Rand s'apercevait-il qu'il exécutait les quatre volontés de la Aes Sedai? Durant un temps, Matt avait cru que son ami la dominait. Et ça ne lui semblait plus si évident. Même si la fichue sœur semblait être prête à toutes les soumissions, à part faire des courbettes et aller chercher la pipe de Rand. La tente du jeune homme trônait en solitaire sur une colline, bien entendu. Devant, l'étendard rouge accroché à un bâton oscillait au vent et se déployait parfois assez pour dévoiler le disque noir et blanc. Comme l'étendard du dragon, naguère, ce drapeau flanquait la chair de poule à Matt. Quand on voulait échapper à l'influence des Aes Sedai, pour ne pas le désirer, il fallait être idiot, on ne devait surtout pas défiler sous leur symbole, pas vrai? Si les pentes de la colline étaient dégagées, des tentes de promise encerclaient son pied et d'autres se dressaient un peu partout alentour. Une configuration coutumière. Pareillement, le camp des matriarches se trouvait à l'intérieur de celui des Fardari Ismaï, des dizaines de tentes pas très éloignées de la colline de Rand et repérables à la multitude de Gaïshine en robe blanche qui s'affairaient autour. Une poignée de matriarches seulement était dehors. Mais elles compensèrent le désavantage du nombre par l'intensité des regards qu'elles rivèrent sur Matt. Ignorant combien d'entre elles étaient capables de canaliser le pouvoir, le jeune homme en faisait sans problème les égales des Aes Sedai, quand il s'agissait d'observer un pauvre type avec une froide curiosité d'entomologiste. Pressant le pas, il s'efforça de ne pas hausser les épaules en réaction à son sentiment de malaise. Ses fichus regards lui faisaient l'effet de coups de bâton, mais il ne devait pas le montrer. Et en repartant, il devrait subir la même épreuve. Mais pour la dernière fois, et ça, c'était un soulagement. Quelques mots avec Rand et, hélas, quand il fut sous la tente de son ami, après avoir enlevé son chapeau, mais en étant quand même obligé de se baisser, il ne l'y trouva pas. Nathaël seul était là. Alangui sur des coussins, il tenait un gobelet dans une main, l'autre caressant distraitement la harpe dorée ornée d'un dragon qui reposait sur ses genoux. Matt lâcha un juron dans sa barbe. Comment ne s'en était-il pas douté? Si Rand avait été là, il aurait dû traverser un cercle de promises massées autour de la tente. La tour d'observation. Rand y était probablement. Une bonne idée, il fallait en convenir. Connaître le terrain était la deuxième règle fondamentale, juste après connaître son ennemi. Et encore, les deux se suivaient de très près. Matt eut une grimace pleine d'amertume. Ces règles appartenaient à la mémoire de quelqu'un d'autre. Pour sa part, il en avait d'autres. Également au nombre de deux et tout aussi essentiel. N'embrasse jamais une fille quand ses frères portent des cicatrices de coups de couteau et ne joue jamais quand tu n'as pas localisé la sortie de secours. Les pensées parasites d'autres hommes venaient sans cesse se mêler aux siennes. S'il y avait eu une sorte de démarcation, ça aurait quand même été plus facile à vivre.
« Des problèmes de digestion ?»
demanda Nathaël.
« Une des matriarches doit bien avoir une racine pour arranger ça. Sinon, demande à Moraine. »
Matt n'avait jamais réussi à apprécier le trou vert, qui semblait toujours penser à une bonne blague sans avoir l'intention de la raconter. De plus, ce type était toujours impeccable, comme si trois serviteurs s'occupaient en permanence de ses vêtements ornés de dentelles au col et aux manches. Accessoirement, il semblait ne jamais transpirer. Mais que lui trouvait donc Rand? Pour ne rien arranger, ce lascar jouait toujours des airs sinistres sur sa harpe.
« Rand reviendra bientôt ?»« Quand il l'aura décidé. » »«
Peut-être bientôt, peut-être pas. » »«
Aucun homme ne peut imposer un horaire au seigneur dragon, mais très peu de femmes. »
Voilà que ça recommençait. Toujours ce sourire plein de sous-entendus. Mais un peu jaune cette fois.
« Je vais l'attendre. »
Cette fois, il fallait en finir. Matt avait bien trop souvent différé son départ. Sirotant son vin, Nathaël l'observait par-dessus le bord de son gobelet. Moiraine et les matriarches regardaient souvent Matt de cette façon-là. Puis Egwen, moitié matriarche et moitié Aes Sedai, elle avait rudement changé depuis Chandemond, s'y était mise. Et là, voilà que le trou vert de Rand lui faisait le même coup. De quoi l'inciter à grincer des dents, non? Heureusement, s'il fichait le camp, plus personne ne s'amuserait à le sonder en faisant semblant de deviner ce qu'il pensait, ou s'il portait un caleçon propre pour ce qu'il en savait. Deux cartes étaient déroulées non loin de la fosse à feu. Copie d'un original très détaillé mais en mauvais état, découvert dans une ville à demi incendiée, la première couvrait le nord du Caerien, de la berge ouest de la rivière Alguenia, jusqu'à environ mi-chemin de la colonne vertébrale du monde. Récente et sommaire, la deuxième représentait la ville et les terres qui l'entouraient. Des fragments de parchemin arrimés par des cailloux constellaient les deux cartes. S'il voulait attendre Rand et ignorer le regard inquisiteur de Nathaël, Matt n'avait qu'une solution. Se pencher sur cette documentation. Du bout du pied, il déplaça quelques cailloux, sur la carte de la cité, afin de lire ce qui figurait sur les fragments de parchemin, et ne put s'empêcher de faire la grimace. Si les éclaireurs à Yel savaient compter, Kouladin disposait de quelques 160 000 guerriers. Des Shaido et des membres d'autres tribus venus rejoindre leur ordre au sein des Shaido. Une sacrée épine dans le pied de Rand. De ce côté de la colonne vertébrale du monde, on n'avait plus vu une armée pareille depuis le temps d'Arthur et de Faucon. La seconde carte recensait les autres tribus qui avaient traversé le mur du dragon après Rand et ses forces. Toutes l'avaient franchie désormais, en une ou plusieurs colonnes, réparties selon le moment où elles étaient sorties de la passe de Jangai, et s'étaient dispersées. Mais toutes se trouvaient trop près d'ici pour que ce ne soit pas inquiétant. Les Chiandé, les Kodara, les Darin et les Myagoma. À L4, ces tribus semblaient avoir autant de guerriers que Kouladin. Si c'était vrai, elles n'avaient pas dû en laisser beaucoup en arrière. Les 7 tribus venues avec Rand représentaient presque le double de combattants, soit largement assez pour affronter Kouladin ou les 4 autres tribus. Séparément, pas ensemble. Hélas, c'était ce qui pendait au nez de Rand. Ce que les Aiel nommaient la sidération avait bien sûr dû affecter ces tribus-là aussi. Chaque jour, au sein des forces de Rand, des hommes jetaient leurs armes et s'enfuyaient. Mais il aurait été dangereux de croire que le phénomène avait davantage réduit les rangs adverses que ceux des bons Aiel. De plus, parmi tous ces déserteurs, rien n'interdisait de penser qu'un certain nombre était allé rejoindre Kouladin. Les Aiel n'évoquaient pas volontiers cette possibilité. Pour s'aveugler, ils préféraient croire à ces histoires de fidélité à un ordre plus qu'à une tribu. mais des hommes et des promises continuaient à décider qu'ils ne pouvaient pas accepter Rand ou les révélations qu'il leur avait faites sur eux-mêmes. Chaque matin, on recensait les défections, et tous les fugitifs ne laissaient pas leurs armes derrière eux.
« Une situation intéressante, non ?»
Entendant la voix de Lan, Matt se retourna. Mais il fut vite rassuré, car le champion venait d'entrer seul sous la tente.
« Je regardais seulement pour passer le temps. Rand va revenir bientôt ?»«
Il sera bientôt parmi nous, oui. »
Les pouces glissés dans sa ceinture, Lan vint se camper à côté de Matt et baissa lui aussi les yeux sur les cartes. Son visage resta de pierre, ce qui n'étonna pas le moins du monde le jeune homme.
« Demain, ça devrait être la plus grande bataille depuis l'époque d'Arthur el de Faucon. »
Sans blague.
Où était donc Rand? Toujours au sommet de la tour d'observation, probablement. Matt se demanda s'il devait aller rejoindre son ami. Non. C'était une recette idéale pour courir dans tous les sens sans jamais le rattraper. Alors que Rand, tôt ou tard, reviendrait sous sa tente. En revanche, si la conversation avait pu ne pas tourner autour de Culloden,
ce combat ne me concerne pas. Je m'en vais, c'est vrai.
Et je n'abandonne rien, ni personne.
« Et cela ?»
demanda Matt en désignant les fragments de parchemin qui représentaient les Miagoma et les trois autres tribus.
« Tu sais s'ils ont l'intention de se joindre à Rand ? Ou s'ils viennent juste ici pour regarder et compter les points ?»«
Qui peut le dire ? Rouark n'est pas plus avancée que moi. Et si les matriarches ont plus d'informations, elle les garde pour elle. La seule certitude, c'est que Culloden n'ira plus nulle part. »«
Encore Culloden ? » Mal à l'aise, Matt esquissa un pas vers la sortie. Mais il se ravisa. Non, il attendrait. Rivant le regard sur une des cartes, il fit mine de l'étudier intensément. Avec un peu de chance, Lan n'insisterait pas. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était prévenir Rand de son départ et s'en aller. Hélas, le champion semblait être d'humeur bavarde.
« Qu'en penses-tu, maître Trouvert ? Demain, devons-nous fondre sur Culloden et l'écraser ?
« Ça me paraît aussi bien que n'importe quel autre plan, »
grommela Nathael. Il vida son vin, jeta son gobelet sur le sol et s'empara de sa harpe pour jouer un air bien entendu triste à mourir.
« Je ne dirige aucune armée, champion. Je n'ai jamais rien commandé, à part ma modeste personne. Mais encore, pas toujours. »
Matt ayant poussé un grognement, Lan lui jeta un coup d'œil avant de s'intéresser de nouveau aux cartes.
« Selon toi, ce n'est pas un bon plan, dirait-on. Pourquoi ?»
Une phrase lancée si naturellement que Matt répondit presque sans s'en apercevoir.
Je vois deux raisons. Si vous encerclez Culloden, le coinçant entre vos forces et la ville, vous pouvez effectivement l'écraser contre le mur d'enceinte.
Rand allait-il encore être long?
Mais vous pouvez aussi l'inciter à franchir ce mur. D'après ce que j'ai entendu dire, il a failli réussir deux fois, et ce sans engin de siège ni mineur. Et Caerien ne tient plus que par miracle.
Prévenir Rand et filer. Rien de plus.
Poussez-le trop, et vous devrez combattre à l'intérieur de la cité. Lan, les batailles urbaines, c'est très moche. De plus, l'idée générale est de sauver la capitale, pas d'achever sa destruction.
Regarder les fragments de parchemin et les cartes elles-mêmes suffisait pour souscrire à cette analyse. Plissant le front, Matt s'accroupit, les mains posées sur les genoux. Lan l'imita, mais il s'en aperçut à peine. Un problème taillé pour un joueur, ça. Et fascinant.
Mieux vaudrait le repousser. L'écarter de la ville en attaquant par le sud.
Matt désigna la rivière Gaelin, qui se jetait dans l'Alguenia à une lieue environ de la cité.
Il y a des ponts par là. Laissez au Shaido un chemin d'accès dégagé à ces ponts. Il faut toujours ménager une porte de sortie à ses adversaires. Sauf quand on a envie de découvrir comment ils se battent quand ils n'ont plus rien à perdre.
Matt indiqua des collines boisées à l'est. Sans doute le même genre de terrain qu'ici.
À condition d'être assez puissante et judicieusement placée, une force chargée de les bloquer, sur cette berge de la rivière, les obligera à se diriger vers les ponts. Quand ces guerriers seront en mouvement, Culloden ne voudra pas affronter un ennemi posté devant lui alors qu'un autre le suivra.
Oui. C'était presque la même configuration qu'à Jinjie.
Enfin, à moins qu'il soit complètement idiot. Les Shaido réussiront à atteindre la rivière en bon ordre, mais ces ponts seront un goulot d'étranglement. Je doute que les Aiel essaient de traverser à la nage, voire de chercher des guets. Si vous ne relâchez pas la pression, vous les forcerez à passer dans le plus grand désordre. Puis vous les harcèlerez jusqu'aux montagnes.
C'était aussi comme le guet de Quaindag. vers la fin des guerres des Trollocs. Oui, le rapport des forces était en gros le même. Mais ça faisait également penser à Thorachan ou à la brèche de Soulmain, avant qu'Arthur El de Faucon soit devenu très aguerri. Les noms tourbillonnaient dans la tête de Matt. De sanglants champs de bataille oubliés jusque par les historiens. Concentré sur les cartes, il ne faisait plus la différence avec ses propres souvenirs.
« Dommage que vous ayez si peu de cavaliers. Pour le harcèlement, la cavalerie légère est idéale. Frappez les flancs. Ne laissez jamais les Shaido cesser de courir. Et ne leur permettez pas de se mettre en ordre de bataille. En fin de compte, les aïels seront presque aussi efficaces que des cavaliers.
« Et la deuxième raison ?»
demanda Lan. Matt était piégé désormais. Il adorait jouer. Et comparé à une bataille, une partie de dés dans une taverne était une distraction tout juste bonne pour les enfants et les vieillards édentés. L'enjeu, c'était la vie. Celle du chef, bien sûr. Mais aussi celle d'une multitude d'autres hommes pour lesquels il décidait. Un mauvais pari, une mise mal calculée, et des villes entières pouvaient succomber, quand ce n'était pas des nations. La sinistre musique de Nathael faisait un très bon accompagnement, en fait. Oui, la guerre était terrible. Mais en même temps, quel fantastique jeu! Sans lever les yeux des cartes, Matt ricana.
Tu la connais aussi bien que moi, la deuxième raison. Si une des quatre tribus décide de s'unir à Kuladin, elle vous prendra à revers pendant que vous serez bien trop occupé par les Shaido. Kuladin sera l'enclume, et ses alliés feront le marteau. Devine qui se fera taper dessus? Contre Kuladin, ne mobilisez que la moitié de vos forces. Ce sera un combat à forces égales, mais il faut vous y résigner.
Dans une guerre, la notion de loyauté n'existait pas. On attaquait l'ennemi dans le dos, quand il ne s'y attendait pas, et en visant son point faible.
Vous aurez encore un avantage, parce qu'il devra se méfier d'une éventuelle sortie des défenseurs. L'autre moitié de vos troupes, il faudra la diviser en trois. Une partie pour pousser Kuladin vers la rivière, et les deux autres postés à une lieue d'intervalle entre la cité et les quatre tribus.
« Très bien pensé, »
dit Lan, toujours impassible, mais raisonnablement approbateur.
Ainsi, une tribu n'aura rien à gagner à attaquer une de ses forces, puisque l'autre pourra la prendre à revers. Pour la même raison, personne n'essaiera d'intervenir dans ce qui se déroulera autour de la ville. Bien sûr, les quatre tribus peuvent s'unir. C'est peu probable, car ce serait déjà fait. Mais ça changerait tout.
Matt éclata de rire.
Tout change en permanence. Un plan est bon avant que la première flèche ait quitté son arc. Après, tout peut arriver. Si Indirian et les autres chefs savaient ce qu'ils veulent, cette guerre serait un jeu d'enfant. Mais ce serait trop beau. S'ils se rallient à Kuladin, vous n'aurez plus qu'à lancer les dés et à espérer. Parce que ça voudra dire que le Ténébreux participe au jeu. Au moins, vous aurez assez d'hommes hors de la cité pour lutter à forces égales. Assez pour contenir vos adversaires le temps nécessaire. Si ça tourne ainsi, renoncez à poursuivre Kuladin. Attendez qu'il se soit vraiment engagé dans la traversée de la rivière Gaelin et concentrez-vous sur les quatre tribus. Mais je parie qu'elles attendront que vous ayez réglé son compte à Kuladin pour se joindre à vous. Pour la plupart des hommes, la victoire est un argument très persuasif.
La musique s'était arrêtée. Se tournant vers Nathael, Matt vit que le trouvère, comme pétrifié, le regardait avec des yeux plus inquisiteurs que jamais. À croire qu'il ne l'avait jamais vu avant ou qu'il ignorait qui il était. Les jointures de ses doigts blanches sur les montants de sa harpe, le trouvère avait un regard plus noir que du vert couleur ébène. Matt mesura soudain tout ce qu'il avait dit, révélé plus tôt, s'appropriant des souvenirs qu'il avait jusque-là rejetés.
« Toi et ta grande gueule! Que la lumière te brûle, imbécile heureux !»
Pourquoi Lan avait-il orienté la conversation ainsi? Parler de chevaux ou du temps, n'aurait-il pas tout aussi bien fait l'affaire? Jusque-là, le champion ne s'était jamais montré si avide de jacasser. D'habitude, il était moins communicatif qu'un arbre. Bien entendu, Matt aurait pu ne pas se laisser entraîner et rien ne lui aurait interdit de tenir sa langue. Au moins, il n'avait pas babillé dans l'ancienne langue.
« Par le sang et les cendres ! J'espère bien, en tout cas !»
Matt se redressa, se tourna pour filer, et découvrit que Rand se tenait à l'entrée de la tente, en jouant avec son moignon de lance au bizarre gland, si distraitement qu'on pouvait se demander s'il avait conscience de ce qu'il faisait. Depuis quand était-il là ? Aucune importance. Matt déballa tout ce qu'il avait sur le cœur.
« Je m'en vais, Rand. Dès les premières lueurs de l'aube, je sauterai en selle et salut. Je partirai sur le champ si je pouvais aller assez loin en une demi-journée. Mais avant de m'arrêter pour camper,
J'entends que Pépin ait mis le plus de distance possible entre les aïels et moi. Tous les aïels, Rand.
Camper trop près, c'était risquer de se faire cueillir par les éclaireurs d'un camp ou de l'autre. Ceux de Kouladin ne lui feraient pas de cadeau, et les autres pouvaient ne pas le reconnaître avant de lui avoir transpercé le foie avec une lance.
« Je serais triste de te voir partir, » dit Rand.
« N'essaie pas de... Hein ? C'est tout ? Tu seras triste de me voir partir ? » ?»«
Je n'ai jamais essayé de te retenir, Matt. Perrine est partie quand il a dû le faire, et tu es libre de l'imiter. »
Matt ouvrit la bouche et la referma aussitôt. De fait, Rand n'avait jamais tenté de le retenir. Mais il avait réussi à le faire sans essayer. Ce soir, pourtant, il n'y avait aucune attraction de Taveren, aucun vague sentiment de ne pas faire ce qu'il fallait. Tout était clair dans sa tête, et sa détermination ne faiblirait pas.
« Où iras-tu ? » ?»« Au sud. »
Comme si Matt avait eu le choix. Les autres directions conduisaient à la rivière Gaelin, rien de l'intéressant au nord du cours d'eau, ou aux deux autres groupes d'Aiel. Un qui le tuerait certainement, et un qui pouvait l'épargner si Rand n'était pas trop loin, et si le dîner de la veille avait été satisfaisant. De très mauvaises probabilités, tout ça.
Au début, en tout cas. Ensuite, quelque part où on trouve une taverne et des femmes qui ne portent pas de lance.
Melindra. Elle pouvait lui poser un problème. Si son instinct ne le trompait pas, elle appartenait à la catégorie de femmes qui ne vous laissent pas partir tant qu'elles n'en ont pas envie. Mais il s'arrangerait avec elle d'une façon ou d'une autre. Par exemple, en filant sans rien lui dire.
« Ce n'est pas pour moi, Rand. Je ne connais rien aux batailles. Et loin de moi l'envie d'apprendre. »
Matt évita de regarder Lan et Nathael. Si l'un des deux ouvrait la bouche, il aurait droit à son poing dans la figure. Oui, même le champion.
« Tu me comprends, pas vrai ?»
Rand eut un hochement de tête qui pouvait à peu près tout dire.
« Si j'étais toi, j'omettrais de faire mes adieux à Egwene. Quand je lui dis quelque chose, je ne suis pas sûr que ça n'arrive pas directement dans les oreilles de Moiraine, des matriarches ou des deux. Ça fait un bail que j'en suis arrivé à cette conclusion. Le champ des mondes est bien plus loin derrière elle que derrière nous. Et elle le regrette bien moins que nous.
C'est possible, admit Rand.
Que la lumière brille sur toi, Matt.
Il tendit la main à son ami.
Puisses-tu trouver de bonnes routes, un temps clément et une compagnie agréable, en attendant nos retrouvailles.
Des retrouvailles qui ne seraient pas pour bientôt, si ça dépendait de Matt. Bien sûr, il se sentait un peu triste, et se trouvait ridicule à cause de ça. Mais un homme devait penser avant tout à lui-même. Au bout du compte, la vie revenait à ça. La poigne de Rand était aussi ferme que jamais, avec des cales dues à l'escrime en plus de ceux que lui avait valu le tir à l'arc. Et on sentait très bien les reliefs du héron imprimés dans sa paume. Un pense-bête, au cas où Matt aurait oublié les dragons qui ornaient les bras de son ami et les étranges choses sous son crâne qui lui permettaient de canaliser le pouvoir. S'il pouvait oublier cette particularité de Rand, et il n'y avait plus pensé depuis des jours, il était grandement temps de prendre la poudre d'escampette. Alors que les deux amis échangeaient quelques paroles maladroites, Lan se remit à étudier les cartes comme s'il n'avait plus conscience de leur présence. Nathael recommença à jouer de la harpe, et pour Matt, qui avait l'oreille musicale, l'air qu'il interprétait semblait exprimer une subtile ironie. Un hasard, simplement ? Puis Rand se détourna à moitié, mettant fin aux adieux, et Matt se hâta de sortir. Dehors, il découvrit une véritable petite foule. Une bonne centaine de promises, pour commencer, qui patrouillaient en appui sur les avant-pieds, tant elles étaient prêtes à embrocher quelqu'un. Les sept chefs de tribu, immobiles comme des statues et tout aussi patients, et comme de juste, trois seigneurs de Théar, qui faisaient mine de ne pas transpirer, et s'efforçaient d'agir comme si les aïels n'existaient pas. Matt avait entendu parler de l'arrivée des Théariens. Curieux, il était allé jeter un coup d'œil à leur camp au pluriel plutôt. Mais il n'y avait rencontré personne de sa connaissance, et pas davantage de pigeons prêts à le défier aux dés ou aux cartes. Le regardant de la tête aux pieds, les trois types semblèrent décider qu'il ne valait pas mieux que les aïels, donc qu'il n'était pas digne de leur intérêt. Matt enfonça son chapeau sur sa tête, et bien à l'abri sous les bords, dévisagea un long moment les trois imbéciles. Les deux plus jeunes lui firent le plaisir de se montrer mal à l'aise, et de le rester jusqu'à ce qu'il détourne les yeux. Le plus vieux semblait bouillir d'impatience d'entrer sous la tente de Rand. Pourquoi ? Eh bien, c'était son affaire, et Matt s'en fichait, car il ne reverrait plus jamais ces gens. Pourquoi ne les avait-il pas ignorés ? Franchement, il n'aurait su le dire. Sauf qu'il marchait désormais d'un pas plus léger, et se sentait débordant d'entrain. Quoi d'étonnant, puisqu'il partirait le lendemain. les dés tournaient dans sa tête, et comment savoir sur quelle face il s'arrêterait? Lui, ne pas savoir ça? C'était bizarre. Mais ça devait être à cause de Melindra qui l'inquiétait quelque peu. Oui, c'était décidé. Il partirait très tôt et sans faire plus de bruit qu'une souris qui traverse un tapis de plumes sur la pointe des pattes. Il se mit en route vers sa tente en sifflotant. Quel air lui était venu à l'esprit? Ah oui, danser avec le grand faucheur. En réalité, il n'avait aucune intention de gambader avec la mort. Mais l'air était entraînant. Alors pourquoi ne pas le siffler tout en songeant à la meilleure route à prendre pour s'éloigner de Kyrienne? Rand garda les yeux rivés sur le rabat de la tente, longtemps après qu'il fut retombé sur Matt.
« J'ai seulement entendu la fin, » dit-il.
« Tout était de la même eau ?»«
Presque, »
répondit Lan.
Après avoir étudié les cartes quelques minutes, il m'a proposé à peu de choses près le plan que Rouark et les autres ont élaboré. Il a vu toutes les difficultés et tous les risques, puis avancé toutes les solutions requises. Il est au courant pour les engins de siège et les mineurs, et il sait que la cavalerie légère est idéale pour harceler un adversaire en déroute.
Rand regarda le champion, qui ne semblait pas le moins du monde surpris. Bien sûr, puisque c'était lui qui avait fait remarquer que Matt semblait étrangement expert en matière de stratégie et de tactique. De plus, Lan n'était pas du genre à poser la question pourtant évidente. Et Rand s'en félicitait, car il ne se sentait aucun droit de révéler à quiconque le peu qu'il savait sur le sujet. En revanche, il aurait bien posé quelques questions de son cru. Par exemple, quel rapport y avait-il entre les mineurs et les batailles? Ou est-ce que ça ne valait que pour les sièges? De toute façon, la mine la plus proche était à la dague de fléau de sa lignée. Et il n'y avait certainement plus personne pour y travailler. Eh bien, pour cette bataille, on se passerait de mineurs. L'essentiel, c'était de savoir désormais que Matt, en traversant l'étrange terrain gréal en forme de portique, avait gagné d'autres aptitudes que celle de s'exprimer dans l'ancienne langue quand il était distrait. Des aptitudes, à n'en pas douter, dont Rand saurait tirer parti un jour ou l'autre. « Je crois que tu n'as pas besoin de devenir plus dur », pensa-t-il amèrement. Ayant vu Matt monter vers sa tente, il n'avait pas hésité une seconde à envoyer Lan mettre à l'épreuve son ami par le biais d'une conversation informelle. Oui, tout ça avait été calculé. La suite serait inévitable, quoi qu'il fasse ou ne fasse pas. Rand espéra que Matt profiterait au mieux de sa liberté. Pareillement, il souhaitait de tout cœur que le séjour de Perrine à Deux-Rivières soit agréable. Présenter Feil à sa mère et à ses sœurs, en profiter peut-être pour l'épouser. Vraiment, il l'espérait, car il savait qu'il ferait revenir vers lui ses deux amis. Un taverne exerçait une attraction sur les autres tavernes, et du trio, c'était lui le plus puissant. Selon Moiraine, que trois tavernes nés pratiquement en même temps et grandis dans le même village ne pouvait pas être une coïncidence. La roue intégrait bien des coïncidences et des événements fortuits dans la trame, mais sûrement pas des personnes comme eux. Ça, c'était délibéré. Si loin qu'il s'en aille, au bout du compte, Rand ramènerait ses amis à lui, et lorsqu'il serait de retour, il se servirait d'eux. Parce que c'était ce qu'il devait faire, que ça lui plaise ou non. Indépendamment de ce que disaient les prophéties du dragon, il était sûr que sa seule chance de triompher, lors de Tarmon Gaidon, était que les trois tavernes liées les uns aux autres depuis l'enfance soient de nouveau réunies. Non, il n'avait aucun besoin de s'endurcir. « Tu es déjà assez nauséabond pour faire vomir son dîner, hein, Sanchania. »
« Joue la marche de la mort !»
ordonna-t-il d'un ton plus sec qu'il l'aurait voulu. Nathael le regarda mornement pendant un moment. Il avait tout entendu, et il posera des questions. Mais il pourrait attendre longtemps les réponses. Si Rand répugnait à révéler les secrets de Matt à Lan, ce n'était pas pour les confier à un rejeté, même s'il semblait désormais inoffensif.
« Joue là, sauf si tu connais un air plus triste !»
insista-t-il en pointant son moignon de lance sur le feutre ouvert. Cette fois, le ton était volontairement brutal.
Joue une musique capable de faire pleurer ton âme, si tu en as encore une.
Nathael se fendit d'une demi-révérence assise et d'un sourire soumis, mais sa peau blêmit autour des yeux. Puis il entonna la marche, mais avec un doigté très particulier qui rendit la mélodie plus sinistre encore. Un chant funèbre, susceptible d'arracher des larmes à toutes les âmes du monde. Les yeux rivés sur Rand, il semblait avide de voir quel effet l'air aurait sur lui. Se détournant, Rand s'allongea sur le tapis qui couvrait le sol, la tête orientée vers les cartes et les coudes calés sur un coussin rouge et or.
« Lan, tu peux aller dire aux autres d'entrer ?»
Le champion s'inclina très formellement avant de sortir. C'était la première fois qu'il se comportait ainsi devant Rand, qui s'en aperçut à peine. La bataille était pour le lendemain. Par courtoisie, Rouark et les autres avaient fait courir le bruit qui les avait aidés à élaborer le plan. Assez malin pour connaître ses lacunes, et malgré toutes ses conversations stratégiques avec Lan et Rouark, Rand savait parfaitement qu'il n'était pas encore à la hauteur. « J'ai préparé une centaine de batailles de cette envergure, et donné des ordres qui en ont provoqué 10 fois plus. » Une pensée qui ne lui appartenait pas. Loustérine était un expert en stratégie, enfin il l'avait été, pas Randaltor. Randaltor, lui, écoutait, posait des questions et acquiesçait lorsqu'il comprenait pourquoi les chefs tenaient à faire une certaine chose d'une façon bien précise. Souvent, quand il comprenait, ça le désolait, parce qu'il savait d'où lui venaient ces soudaines lumières. En fait, sa seule contribution notable avait consisté à dire qu'il fallait éliminer Kouladin sans détruire la cité. La réunion qui allait commencer servirait à mettre la touche finale à ce qui avait été décidé. Avec sa toute nouvelle science militaire, Matt y aurait été bien utile. Non, il ne devait pas penser à ses amis, et encore moins à ce qu'il leur ferait avant que tout ça soit terminé. En plus de la bataille, il avait bien d'autres préoccupations urgentes. Par exemple, l'absence de drapeau du Kairien sur la capitale du pays posait un grave problème. Tout comme les incessantes escarmouches contre les Andoriens. Et il ne fallait pas non plus négliger ce que préparait Samael. Les chefs entrèrent dans le plus parfait désordre. D'abord Déharic, seul, puis Rouark et Erim, ensemble derrière Lan. Bruan et Djeran prirent place à côté de Rand. Entre eux, ces hommes ne se souciaient pas du protocole et à l'évidence, le champion, Aan Alain, était à leurs yeux quasiment l'un des leurs. L'air morose, Wairamon entra le dernier, ses deux nobliaux sur les talons. Pour lui, le protocole comptait et ne s'en cachait pas. Marmonnant dans sa barbe huilée, il fit le tour de la fosse à feu et vint se camper derrière Rand. Il parut vouloir rester là, mais les regards noirs que lui jetèrent les chefs atteignirent enfin son esprit embrumé par l'orgueil. Parmi les aïels, seul un proche parent ou un frère d'ordre pouvait se placer ainsi quand ils craignaient une éventuelle attaque dans le dos de leur protégé. Wairamon se permit quand même de foudroyer du regard Djeran et Déharic, sans doute avec l'espoir qu'ils lui fassent de la place. Baël fit signe au seigneur de venir s'installer à côté de lui, les cartes les séparant de Rand. Non sans hésiter, Wairamon vint s'asseoir en tailleur, le dos bien droit et l'air dégoûté comme un type qui vient d'avaler d'un coup une prune verte. Ses assistants prirent place derrière lui, la posture presque aussi rigide, et l'un des deux eut l'excellente idée de paraître gêné. Rand s'en aperçut, mais ne fit pas la moindre remarque, se contentant de finir de bourrer sa pipe, puis de l'allumer avec un filament de saïdine. Tôt ou tard, il faudrait qu'il agisse au sujet de Wairamon. Un homme qui ravivait les anciens problèmes et qui en créait de nouveaux. Si Rouark n'avait pas bronché, Han ne cachait pas son mépris, et Rim avait dans le regard la flamme d'un aïel prêt à danser sur le champ avec les lances, et les autres ne semblaient guère plus accommodants. Rand entrevit un moyen de se débarrasser de Wairamon, tout en commençant à résoudre un autre de ses problèmes. Suivant son exemple, les chefs entreprirent eux aussi de bourrer leurs pipes.
« Selon moi, il suffit de modifier quelques détails »,
dit Baël en allumant son brûle-gueule. Comme d'habitude, il s'attira un regard noir de Han.
« Ce détail concerne-t-il les Gauchiennes ? Ou peut-être une autre tribu ?»
Rand oublia Wairamon et se concentra sur les points que les chefs désiraient modifier après leur dernière inspection du terrain. De temps en temps, un des aïels jetait un coup d'œil à Nathael, le pli de sa bouche ou ses sourcils froncés, indiquant que la musique mélancolique du trou vert le touchait d'une façon ou d'une autre. Même les Théariens arboraient une moue mélancolique. Les notes n'avaient en revanche aucun effet sur Rand. Depuis bien longtemps, les larmes, même intérieures, était un luxe qu'il ne pouvait plus s'offrir.